saluons dans le précieux et glorieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes encore avec vous sur notre grand thème, l'esprit de leadership. Et nous avons commencé une nouvelle série, comme l'avons dit, le bonheur et le vrai succès. Le bonheur et le vrai succès se travaillent, ça se prépare, ça se cuisine, ça se cultive. Ce n'est pas automatique. Les magiciens vont essayer de vous donner un bonheur, mais un bonheur fictif. Le bonheur est un état d'esprit, c'est l'état de notre âme, c'est le repos intérieur qui vous donne de bénéficier de ce que vous avez, de votre statut, de votre titre, de votre argent. C'est ça le bonheur, dans la paix, dans la joie. Alors nous avons vu, durant les sessions passées, nous avons amené à réfléchir, et aujourd'hui, notre titre est « Marchez-vous dans la bonne direction ». Si vous ne pouvez pas avoir le bonheur, si vous n'êtes pas dans la direction du bonheur, marchez-vous dans la bonne direction. Vous allez me dire, mais oui, mais tout le monde marche. Il y a des gens qui marchent, qui marchent, qui marchent, qui marchent. Quand on leur dit, mais pourquoi vous marchez? Quel est le but de votre marche? Nous marchons. Non, nous ne sommes pas nés pour marcher. Nous sommes nés et pour marcher dans une direction précise. Si nous marchons et que nous ne marchons pas dans la bonne direction, nous allons tourner en vain. Nous n'allons aboutir à rien et nous serons remplis de frustration, de déception et de faillite totale pour notre vie. C'est pourquoi, regardez bien, quand on veut faire une course cycliste, toutes les courses cyclistes ont un but. Toute course cycliste a un point de départ et un point d'arrivée. Une ligne de départ et une ligne d'arrivée. Je vous pose la question. Quelle est votre ligne de départ? Quelle est votre ligne d'arrivée? Je ne parle pas de votre naissance physique et de votre mort. Non, ça, ces deux éléments sont indépendants de vous. Votre naissance et votre mort sont indépendants de vous. Mais entre les deux bornes fixes que sont la naissance et la mort, qu'est-ce que vous faites? Chacun de nous doit tracer, chacun de nous doit aller de l'avant. Dès le moment où on est dans un âge de réflexion, dans un âge où on commence à réfléchir, nous devons savoir pourquoi nous sommes sur la terre et pourquoi marchons-nous. Comme je l'ai dit, une course cycliste ayant un départ et une arrivée, vous vous imaginez un coureur qui se lève et qui sort du gros lot, c'est-à-dire que de la troupe, du groupe des coureurs, et il prend une autre direction. Et on le voit, il s'efforce. Il est en train de pédaler. Il pédale. Il lève les mains, il salue les gens au passage. Mais on lui dit, mais pourquoi? Où il va? Il dit, non, il est en train de courir. Mais de quelle course? Mais il est le champion du monde. Il dit, mais monsieur, vous n'êtes pas dans la bonne direction. Alors, moi, je cours. Hein? Mais vous n'êtes pas dans la bonne direction, s'il vous plaît, monsieur. Mais vous pensez que il aura une ligne d'arrivée? Jamais. Il n'aura pas de ligne d'arrivée. Il n'aura pas de récompense. Il ne sera pas accueilli. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas dans la bonne direction. Ça, c'est important. Je vous pose la question. Vous voulez le bonheur. Mais il y a un chemin du bonheur. Vous voulez le succès. Il y a un chemin du succès. Il y a une direction à prendre. Si vous prenez la mauvaise direction, vous allez aboutir à un échec en permanence. Vous allez aboutir à une défaillance. Vous allez aboutir à un découragement. Vous allez aboutir à un désespoir. C'est pourquoi nous arrêtons pour vous parler. La vie sur terre a un but. On n'est pas né, on n'est pas né pour... Les gens disent, mais quelle est votre vie sur terre? Votre but sur la vie sur terre? Quel est votre but par rapport à votre vie sur terre? Ah non, je ne sais pas. Alors, si vous ne savez pas, vous allez souffrir. Vous allez vraiment souffrir. Et malheureusement, les intellectuels, comme les non-intellectuels, sont sur cette terre, mais ne savent pas pourquoi ils sont sur la terre. Ils disent, mais tout le monde est né pour... Non, moi, je ne suis pas né pour ça. Je ne suis pas né. J'ai un but dans la vie. Je sais où je vais. À cause du fait que je sais où je vais, j'ai réuni les éléments qu'il me faut pour réussir ma marche. Si vous voulez aller en pèlerinage, mais on vous dit, mais dans quelle ville vous allez en pèlerinage? Vous dites, non, moi je m'en vais en pèlerinage. Non, vous allez en vagabondage. C'est différent. Le pèlerinage, il y a une ville. Et la ville où vous devez aller en pèlerinage va vous amener à savoir quel est le moyen que vous allez utiliser. Est-ce l'avion? Est-ce le bateau? Est-ce les pieds? Si votre pèlerinage va dans, c'est pour aller dans un village à 30 km de chez vous et vous voulez prendre le bateau, alors qu'il n'y a pas de bateau, le village où vous voulez aller, il n'y a pas de mer, il n'y a pas de fleuve, quel bateau allez-vous prendre? Vos moyens de transport sont en relation avec votre but. Vous ne pouvez pas aller, et je ne sais pas moi, en France, si vous êtes en Afrique, et vous décidez de marcher pour aller, vous allez arriver, mais peut-être vous allez arriver que l'événement auquel vous voulez assister est déjà passé à plus de 30 jours. Donc, il faut s'arrêter. Il y a des choses simples dans la vie. Et parfois, nous pouvons être intellectuels, on est dans les nuages, mais on n'a pas les pieds sur terre. Et c'est pourquoi beaucoup, beaucoup d'intellectuels qui suivent l'émission n'arrivent pas à réussir. On ne voit pas de réussite. Ils sont intelligents. En classe, dans les laboratoires, dans les amphithéâtres, ils sont brillants. Mais dans la vie pratique, alors là, on se pose la question, est-ce qu'il a déjà fait un seul jour de classe? Ça, c'est important. Alors je dis, la vie a un but sur terre. Mais pourquoi tant de tragédies alors? Il y a tant de tragédies, trop d'accidents dans cette vie-là. Parce que les gens n'ont pas de but. Ils ne savent où aller. Sur la route du destin, il y a trop d'accidents mortels. Je ne parle pas des accidents de voiture, je parle de l'accident de vie des gens. Vous voyez ce jeune homme que tout le monde dit, ah, il va arriver à quelque chose de bon. Cette jeune fille, elle va arriver à quelque chose de bon. Mais 5 ans, vous apprenez, tragédie, terrible, tragédie dans sa vie. Rien ne marche. Vous posez la question pourquoi? Parce que intérieurement, elle n'avait aucun but. Vous la voyez extérieurement, elle rit, elle rit avec tout le monde. Mais elle n'a aucun but, elle n'a aucun but sur lequel s'appuyer et rassembler les éléments, les moyens pour atteindre ce but-là. Donc elle ne fait que tourner en rond et ce jeune homme ne fait que tourner en rond. La question se pose, arrêtez-vous et réfléchissez. Où en êtes-vous aujourd'hui au moment où je m'adresse à vous? Au moment où je voudrais vous faire réfléchir, où en êtes-vous aujourd'hui avec votre vie? Si vous avez 30 ans, arrêtez-vous pour voir déjà comment avez-vous passé les 30 années. Faites le point, faites le bilan de vos 30 années. Vous avez 30 ans, arrêtez-vous. Vous allez passer bientôt à la deuxième étape, de 30 à 40 ans, où les décisions les plus importantes se prennent, où les futurs, les destins se forgent. Mais si les 30 années derrière, et vous ne savez pas où aller, c'est à 30 ans que Jésus est entré dans son destin. C'est à 30 ans qu'il a commencé à partir de 30 ans qu'il a commencé à affecter le monde. Parce qu'il savait. Il dit, je sais pourquoi je suis venu sur la terre. Je sais où je vais. Jésus savait pourquoi il est venu. Il savait où il allait. Il savait quel est le destin que le Père lui a assigné sur la terre. Et c'est pourquoi il a affecté positivement les vies des hommes. Il est entré dans un repos, car il savait où il allait. Il connaissait sa destinée finale. Et il avait les moyens pour s'y rendre. Et il avait toutes les stratégies, les tactiques, pour que réellement il aboutisse ce pourquoi. C'est pourquoi quand il a fini dans l'évangile de Jean, chapitre 17, et au verset 3, il dit, et verset 1 à 3 même, il dit, mais Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. Et ouais, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as confiée. Maintenant, j'ai glorifié ton nom sur la terre et il est temps que je parte. Vous entendez? Personne n'a jamais dit cela. Les gens, en terminant leur vie sur terre, sont dans l'angoisse du lendemain, de ce qui va leur advenir dans leur vie. Mais Jésus s'est arrêté. Il a fait la conclusion dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 17. Il dit, j'ai achevé. Qui a dit cela? Personne. Aucun homme n'a jamais dit, j'ai achevé l'œuvre qui m'a été confiée, j'ai vaincu. Maintenant, la couronne m'est réservée, la couronne d'un vainqueur. Quand ceux qui courent au stade, si vous courez au stade, un marathon, et vous êtes en train de courir comme un coureur de 100 mètres, vous n'irez pas loin. On dit, maintenant, on va courir aujourd'hui, l'épreuve de marathon, vous vous alliez, dès qu'on fait pam, et vous démarrez comme un coureur de 100 mètres, les autres coureurs vont rire de vous. Ils vont rire de vous. Parce qu'ils savent que tôt ou tard, ils vont vous atteindre et ils vont vous dépasser. La vie, c'est un marathon. Et un marathon se prépare par des entraînements, par un but, par des moyens adéquats pour vous permettre d'advenir, d'arriver à votre but final. Alors, c'est important. Il y a un chemin de la vie. Maintenant, si ce chemin de la vie-là, je ne parle pas de vos titres, je ne parle pas de votre statut social, non. Ce n'est pas ça qui fait le succès. Le titre et le statut social que vous avez aujourd'hui est une chose. Mais les gens peut-être vous respectent. Je ne dis pas non. Je bénis Dieu de ce qu'il vous a donné une position sociale. Je bénis Dieu parce qu'il vous a élevé, vous a donné un titre. Mais regardez vous-même. Est-ce que vous pouvez dire aujourd'hui, vous qui me suivez là, malgré vos titres, vos statuts, votre pouvoir, votre capacité, peut-être matérielle, financière, est-ce que vous pouvez dire que vous avez achevé, vous êtes vraiment dans la paix et le repos? Est-ce que le bonheur est votre partage? Est-ce que le vrai succès, le succès qui donne le repos, je ne dis pas quelque chose qui nous enorgueillit, non, je ne parle pas de ces choses, je parle de la réalité. Vous êtes assis dans votre fauteuil, vous êtes en train de regarder l'émission. Je vous pose la question, messieurs, madame, êtes-vous dans le repos? Êtes-vous dans la tranquillité où il y a un vide qui vous remplit? Il y a une insatisfaction morale, une insatisfaction individuelle. Il y a une faim, une soif de quelque chose qui tenaille vos entrailles. Et vous ne savez pas quoi. Cela est dû à quoi? Vous avez essayé de satisfaire toutes ces choses-là avec tous les plaisirs, mais ça ne marche pas. Avec toutes les ovations que vous avez, mais ça ne marche pas. Avec tous les moyens matériels que vous avez, mais vous sentez tout le temps le vide. C'est de ça que je parle, parce que vous n'êtes pas dans la bonne direction. Vous n'avez pas pris le chemin du succès et le chemin du vrai bonheur. C'est pour continuer à nous suivre. Nous allons aller pas à pas. Nous voulons vous amener à réfléchir. Nous voulons vous faire réfléchir sur vous-même. Où en êtes-vous aujourd'hui? Examinez vos victoires. Pour ceux qui, par exemple, combien de personnes nous avons rencontrées, combien de personnes nous voyons, ils ont des victoires. Comme ce grand chanteur d'il y a plusieurs décennies, qui a quitté la scène où il a été ovationné par des millions de ses fans, des milliers de ses fans, des milliers de ses fans qui l'ont ovationné, qui étaient durant au zénith de la gloire. Et le lendemain, nous avons tous appris à la radio, à la télévision, qu'il s'est suicidé. Alors je vous pose la question. Cet homme qui a été porté la veille, qui a été élevé, qui semblait se réjouir, qui semblait avoir une joie, une paix, qui a de l'argent, qui n'est pas en faillite, pourquoi s'est-il suicidé la même nuit? Pourquoi? La question se pose. Pourquoi les grands stars de ce monde-là n'ont pas la paix? Pourquoi se suicident-ils? Pourquoi des gens qui sont des multimilliardaires ne savent pas? Pourquoi? Parce qu'il y a des tragédies de la vie. Parce qu'ils n'ont jamais su les victoires. C'est comme beaucoup de grands musiciens. Après les temps de musique, il y a le vide. C'est pourquoi les gens sont obligés de se droguer. La drogue est le moyen aujourd'hui des gens pour éviter de vivre dans ce vide qui les tenaille. Qui les tenaille. Qui les tourmente. Le pourquoi, ils ne savent pas. Vous êtes dans le succès. Vous êtes une femme de succès. Vous êtes un homme de succès. Vous remportez des victoires dans beaucoup de domaines, dans votre domaine. Je ne sais pas dans quel domaine vous remportez des victoires. Mais la question qui se pose, votre victoire et votre succès, vous coûte quoi? Vous savez très bien ce que ça vous coûte. Vraiment, ça vous coûte votre santé, ça vous coûte votre famille, ça vous coûte vos relations, ça vous coûte la paix intérieure. À quoi bon d'avoir un soi-disant succès, une victoire apparente, alors que le prix à payer est très grand. Alors que le prix à payer est très grand, à quoi ça vous sert de quitter, je ne sais pas, la tribune de la gloire pour dormir dans le lit du désespoir?
Vous entendez?
À quoi cela vous sert d'être à avoir un maillot jaune de champion et que vous dormez dans un vêtement de la défaite, un pyjama de la défaite? À quoi ça vous sert d'être ovationné par des milliers d'hommes qui vous élèvent alors que vous êtes terrassé dans votre lit et que vous êtes dans l'insomnie, que ça ne va pas? C'est le drame et de l'humanité. Et c'est le problème. Je vous parle sérieusement. C'est parce que je sais de quoi je parle. Je vois autour de nous des gens qui apparemment ont un succès, qui apparemment sont craints, qui apparemment sont adulés par les gens. Mais ça ne va pas du tout. Je vous pose la question, où en êtes-vous aujourd'hui? Quelle tragédie est sur votre chemin? Les victoires que vous avez cumulées, les succès que vous avez, combien ça vous coûte? Quel est le prix? Vous le savez très bien. Vous savez de quoi je parle. Chaque succès que vous avez vous a coûté des compromis. Vous a coûté des relations que vous avez été obligé de casser avec des gens. Ça vous a coûté de piétiner vos meilleurs amis, de les trahir. À quoi? Je vous pose la question. La victoire que vous avez, le succès que vous avez aujourd'hui, ça diminue votre réputation. Ça diminue votre intégrité. Mais vous êtes là, ça va, ça ne va pas. Vous êtes dans le lit de l'insomnie. Et aucun comprimé ne peut calmer ce vide intérieur. Le bonheur a un prix, mais le succès apparent aussi a un prix, et ce prix est très, très, très coûtant. Et ce qu'on amène, le stress. C'est ça qui amène tellement de choses terribles dans ce monde-là. Ça amène des attaques cardiaques, ça amène toutes sortes de choses terribles dans la vie des gens. Pourquoi? La question est importante. La question est très, très importante. Si la direction, j'ai noté quelques idées, si la direction que nous prenons est mauvaise, tout pas ou tout kilomètre fait dans cette direction-là va nous éloigner notre objectif principal. Je reprends pour vous situer ça. Si la direction que nous prenons, elle est déjà mauvaise, tout pas, tout kilomètre fait dans cette direction nous amène loin de notre objectif. Notez ça très bien. Lisez cela très bien sur l'écran. Lisez cela très bien maintenant. Qu'est-ce que cela veut dire? Si je décide d'aller dans une ville X, Abidjan ou Cotonou, ou Dakar, ou Libreville, ou Bamako, et je prends la direction opposée de ces villes-là, tout pas que je fais, tout kilomètre que je fais, m'éloigne de mon objectif premier, c'est-à-dire la capitale où je vais aller. Dans la vie, c'est comme cela. Si vous êtes dans la mauvaise direction, quels que soient les efforts, l'argent que vous allez engagé, tout ce que vous allez faire va vous éloigner de votre objectif premier qui est le vrai bonheur et le vrai succès. Le bonheur et le vrai succès. Pourquoi tant de suicides? Pourquoi tant de guerres dans les cœurs des gens? Pourquoi tant d'insatisfaction, de coups bas et d'intrigues? C'est à cause de cela. Les gens n'ont pas le vrai bonheur. Un homme qui est dans le bonheur, dans le succès, il ne cherche pas le bien d'autrui. Il sait que ça n'apporte pas la paix et la tranquillité. C'est pourquoi Dieu dit, tu n'enviras pas, tu ne convoiteras pas. Dieu sait que la convoitise va amener des problèmes. J'ai noté quelques éléments. Dieu sait que la convoitise vous amène des problèmes. La convoitise, c'est un échec que vous reconnaissez en vous et que vous reconnaissez que l'autre a un succès. Et vous voulez vous accaparer de ce succès pour lequel vous n'avez jamais travaillé. C'est ça la convoitise. Vous voulez vous emparer de quelque chose dont vous n'êtes pas le producteur. C'est illégal, c'est illégitime. C'est pas légitime. Alors, comprenez, sachez, déterminer dès le départ où vous voulez aller. Ça, c'est important. C'est le premier point que nous voulons voir maintenant. Sachez, vous devez savoir, vous devez déterminer l'endroit où vous voulez aller. Quel est le but? Quel est votre objectif? Dès le départ, vous devez savoir où vous voulez aller. Personne ne voyage sans savoir où il va. Si vous allez dans une agence de voyage, je vais voyager, à l'agent vous accueillera. Bienvenue, monsieur, nous sommes là pour vous, nous sommes à votre disposition. Mais où est-ce que vous voulez aller? Non, je vais voyager. Ah, le sourire va quitter le visage de l'agent. Il ne va plus sourire. Et si vous continuez, je crois que si c'est une dame, excusez-moi, elle va commencer à repousser sa chaise, va se dire, est-ce que le monsieur est normal? Elle va commencer à douter de votre mental. Et si vous vous levez maintenant, madame, je vous dis, je vais voyager, elle va crier au secours. Enfin, elle va dire sûrement, vous êtes un peu dérangé. Alors, si vous ne savez pas dès le départ où vous voulez aller, personne ne vous donnera un billet pour voyager. Vous n'aurez pas de billet, ni de moyens de locomotion adéquats pour vous y rendre. Qu'avez-vous dans votre pensée? Ça, c'est important. Quelle est la pensée que vous avez? Et, vous voyez, avant de construire une maison, vous avez dans votre pensée l'image de la maison. Avant de trahir quelqu'un, vous avez dans votre pensée la pensée de trahison et vous avez déjà préparé. Avant de commettre un crime, dans votre pensée, vous avez déjà tout le programme du crime, l'arme du crime, comment vous allez tuer la personne. Avant de voler, le voleur a dans sa tête tout le schéma de vol. Avant de vous marier, vous avez déjà dans votre pensée la pensée, l'image de la fille ou de l'homme que vous voulez marier. Donc, qu'avez-vous dans votre pensée avant de savoir où vous voulez aller, avant de démarrer, avant d'aller dans la vie? Vous devez d'abord vous assurer quelle est la pensée qui vous anime. La Bible dit dans le livre des Proverbes 29, verset 7. Proverbes 23 du moins, verset 7. La Bible dit ceci. Car un homme est comme les pensées de son âme. Un homme devient comme son âme est. Un homme qui est animé par les pensées de vol, il va devenir voleur. Un homme qui est animé par les pensées de crime, il va devenir criminel. Il n'est pas criminel, non. Ce sont ses pensées qui sont manifestées sous la forme de criminel. Un homme qui a des pensées négatives en lui en permanence, vous ne pouvez rien tirer de lui. Tant qu'il ne changera pas ses pensées. Donc la pensée est l'élément fondamental dans la vie de chaque homme. C'est pourquoi vous voyez des gens, ils sont cravatés, ils sont en basin, mais quand vous les réveillez, si vous pouvez ouvrir leur crâne pour voir leurs pensées, vous allez vous attraper la bouche. Vous allez dire, ah, il est comme ça, elle est comme ça, mais oui. C'est pourquoi ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce qu'un homme conçoit dans sa pensée, c'est ça qui devient la manifestation qu'il a dans sa vie. C'est pourquoi le livre de Philippiens 4, verset 8, Dieu dit à ce passage-là, Dieu dit que si vous voulez réussir, si vous voulez le vrai bonheur, Philippiens 4 et au verset 8, la Bible nous dit ceci, s'il vous plaît, et la Bible nous parle clairement en définissant, en disant simplement ici que tout ce qui au reste, frère, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et si il y a ça, le Dieu de paix sera avec vous. Le Dieu de paix, Dieu sera avec vous. Ce n'est pas une question de religion. La religion ne change personne. Si la religion change le monde, il y a longtemps, le monde est changé. La religion ne change pas les gens. Non. La Bible dit, le Dieu de paix sera avec vous. Dieu sera avec vous. Dieu sera votre compagnon. Dieu sera votre protecteur. Quand? Lorsque vous serez animé de pensées justes, de pensées vraies, de pensées honorables, de pensées qui cherchent le bien-être de votre prochain. Tout est à ce niveau-là. Tout est à ce niveau. Allez-vous vous arrêter? Allez-vous vous arrêter et regarder quelles sont les pensées qui vous animent aujourd'hui? Toutes les belles maisons que vous voyez dans le monde là, tous les avions que vous voyez, toutes les inventions que vous voyez là, viennent de la pensée de quelqu'un. Toute maison est déjà construite dans la pensée de quelqu'un avant de devenir une maison que vous voyez manifester. Oui. S'il n'y a aucune pensée, il n'y a pas de réalisation. Sans pensée, il est impossible que l'homme réalise quelque chose. Sans pensée, vous ne pouvez aller nulle part. Donc la pensée est déterminante. Votre pensée est déterminante. Quelle est la pensée que vous couvrez en vous? Toute poule qui couvre ses œufs, elle aura. Si elle couvre les œufs de canard, les canards vont sortir. Même si elle est une poule. Mais si on lui donne des œufs de canard, écoutez, c'est des canetons. Ce sont des canards qui vont sortir. Si votre pensée est canard, vous ne pouvez accoucher que des canards. C'est important. Vous ne pouvez pas changer. Votre pensée. Si vous ne voulez que du mal aux gens, si vous avez des pensées négatives, si vous ne voyez que des gens, quand vous voyez, ah, lui, il est comme ça, lui, il est comme ça, jamais vous n'allez avoir confiance en quelqu'un. Jamais. C'est important que vous compreniez. Si vous comprenez cela, vous allez vous arrêter, vous allez changer. Quand vous avez mis un CD et que le CD répète la même chose, bon, ben non, non, bon, bon, qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez le CD? Vous arrêtez le CD? Parce que le CD répète la même chose. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si votre pensée se répète en permanence, et je vous ai dit que les pensées qui sont en vous vont se transformer en habitudes. Et les habitudes vont dessiner votre destin. Alors, si vous comprenez ça, changez aujourd'hui vos pensées. Commencez à réfléchir favorablement et Dieu vous aidera et Dieu vous guidera. Et sa grâce sera sur vous. Alors, puisque nous voulons avancer toujours avec Dieu, la Bible dit dans Ésaïe 55, Ésaïe 55, un grand prophète qui nous dit ceci au verset 8 et 9. Dans Ésaïe 55, verset 8 et 9. Mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc Dieu nous dit ici, lui il a des pensées positives. C'est pourquoi Dieu est un créateur. L'homme n'est pas le créateur originel, mais l'homme peut, à travers ses pensées, se créer beaucoup de problèmes, entre guillemets. Il n'est pas créateur originel, mais il est un créateur de seconde main, un inventeur. Donc, si vos pensées, quand Dieu voulait créer le monde, il s'est assis, même si les gens ne croient pas à ça, le monde a été créé. Le monde ne vient pas d'un Big Bang. Il faut vraiment être courageux et vraiment pour dire que le monde vient de zéro. Ça, c'est impossible, là. C'est impossible. Le monde peut venir de zéro. Donc, si votre Dieu s'appelle zéro, d'accord, mais le monde peut venir de zéro. Si votre Dieu s'appelle zéro, je suis d'accord. Si vous appelez votre Dieu là zéro, mais zéro, c'est quoi? Zéro n'a pas d'existence. Donc, à cet égard, nous devons voir. Dieu dit, moi, mes pensées de Dieu ne sont pas vos pensées d'homme. Si vous ne prenez garde à vos pensées d'homme, vos pensées sont limitées. Vos pensées sont remplies de beaucoup d'ignorance. Vos pensées sont remplies de subjectivisme. Moi, mes pensées, elles ne sont pas remplies d'ignorance, dit Dieu. Je ne suis pas subjectif. Vous essayez de me rendre subjectif comme vous. Vous dites que moi, je vais tuer des gens. Moi, Dieu, je ne tue pas les gens. Vous voulez prendre votre caractère et le mettre sur moi. Il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Alors, regardez comment j'ai réussi, dit Dieu. Regardez tout ce que j'ai fait. Regardez la nature. Regardez les animaux. Regardez la création. Vous êtes créés à mon image, vous les hommes. J'attendais de vous de mettre en vous des pensées positives, des bonnes pensées. Ah, les gens vont dire encore, il est en train de parler de la pensée positive. Peut-être c'était. Non, oh non, la pensée positive, elle est partout. Si quelqu'un n'a pas une pensée positive, ce n'est pas un homme positif. Oui. Il y a des gens, tout le temps, quand on leur enseigne, ils sont en train de regarder les défauts, les fautes. fautes grammaticales, les fautes hérétiques et tout. Mais il faut retenir ce qui est bon. Quand vous mangez un poisson, quand vous voyez les arêtes, vous ne jetez pas le poisson. Vous jetez les arêtes et vous mangez le poisson. Quand vous mangez un poulet, vous ne jetez pas le poulet quand vous rencontrez les os. Vous mangez la chair et certains même révisent les os. Donc, ce n'est pas un problème. Donc, révisez mes os, ne jetez pas le poulet, s'il vous plaît. Ne jetez pas le poisson que je vous donne. Jetez les arêtes. Comprenez? Ça, c'est important. Donc, Dieu dit, mes pensées, moi, Dieu, mes pensées-là ne sont pas vos pensées. Ah, il faut dire à Dieu, tu as raison. Il dit, mais si vous me regardez, si vous regardez ma création, si vous regardez ce que j'ai fait là, vous devez être des champions aujourd'hui. Mais moi, j'ai créé, vous vous détruisez. Moi, j'ai créé la biosphère. Moi, j'ai créé l'atmosphère. Moi, j'ai créé tout, la zone d'ozone pour vous protéger. Vous, vous avez détruit la zone d'ozone. Donc, moi, je suis créateur, vous êtes destructeur. C'est ça. Dieu dit, moi, je suis créateur. J'ai créé la couche d'ozone pour vous protéger. Vous, vous avez détruit la couche d'ozone. Donc, moi, je suis créateur. Vous, les hommes, vous êtes destructeurs. Alors, ouais. Donc, c'est pourquoi Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Dieu dit, j'ai créé la couche d'ozone pour votre bonheur sur la terre, la physique, le bonheur naturel, là. Mais aujourd'hui, vous avez créé le malheur pour vous-même. Pourquoi aujourd'hui, on fait des grandes conférences de milliards? Nous voulons demander des milliards pour notre environnement, alors qu'on aurait dû simplement accepter que Dieu... Mais comment on n'a pas accepté Dieu? On a dit que l'homme est Dieu lui-même. Alors on a fait beaucoup d'erreurs. L'homme est Dieu. Aujourd'hui, la couche d'ozone est détruite et l'homme, aucun homme ne peut réparer cela. Et nous sommes soumis à l'attaque du soleil, des rayons solaires, et ça crée des cancers de tout genre, de tous les côtés. Et ça crée les changements climatiques. Alors, voyez bien, il faut que l'homme se répande. Il faut que l'homme se répande. Tout le monde doit se répandre. Tout le monde, des grands chefs jusqu'au plus petit homme de ce monde-là. Tout le monde doit se répandre. Nous avons offensé Dieu. Nous devons nous répandre. Il faut qu'on soit honnête et humble. Nous ne voulons pas. Les grandes conférences qu'on fera à l'échelle mondiale ne résoudront pas le problème de la couche d'ozone, ne résoudront pas le problème climatique. On ne peut plus rien sur le climat. Je ne suis pas un négativiste. Non. Je dis, j'observe ce qu'il y a. Je lis les journaux. Je lis ce que les revues scientifiques pour voir. Mais ils n'osent pas nous dire la vérité. Ils n'osent pas nous dire la vérité. Alors, aujourd'hui, c'est que le monde se répande. Nous ne voulons pas nous répandre. Puisque nous avons nié qu'il n'y a pas de Dieu. Nous avons nié qu'il n'y a pas de Dieu. Alors, nous allons nous répandre maintenant comment? Voilà le vrai problème. Et c'est la même chose pour le bonheur individuel, le succès individuel. Si nous ne savons pas déterminer dès le départ où nous allons, ce que nous voulons faire, si nos pensées ne sont pas des pensées adaptées aux pensées de Dieu, ça veut dire les pensées de Dieu, c'est les bonnes pensées, c'est les pensées honnêtes, c'est les pensées d'intégrité, c'est les pensées de bonnes relations, c'est les pensées de dire mon prochain a été créé à l'image de Dieu comme moi, donc je ne veux pas lui faire du mal. C'est ça les bonnes pensées, les pensées de Dieu. Mais si nous voulons assouvir nos propres passions, si nous voulons seulement être égoïstes, nous allons créer un monde terrible. Nous avons déjà créé un monde terrible, nous allons créer un monde qui sera détruit par l'homme lui-même, les mains de l'homme. Et il n'y aura pas de bonheur. Alors c'est pourquoi? Il y a un autre élément que nous allons voir. Lorsque je sais où je vais, lorsque je mets en moi des pensées qui sont positives pour aller de l'avant, les pensées qui sont de la parole de Dieu, les pensées positives, la parole de Dieu, et lorsque je regarde où je veux aller, je veux le bonheur, je suis en train d'aller vers le bonheur, alors, deuxième chose que je dois savoir faire, c'est de faire la différence entre diriger et gérer. Quelle est la différence entre diriger ma vie et gérer ma vie? Beaucoup de gens ne savent pas. D'abord, il faut prendre la différence entre le mot digérer et le mot gérer. Le mot digérer, c'est réfléchir à ce que l'on veut mener à bien. C'est réfléchir à ce que l'on veut mener à bien. C'est ça, diriger. Gérer, c'est faire les choses comme il faut. C'est faire les choses comme il faut. Alors, il y a une différence. Si tu ne sais pas diriger ta vie, tu seras un mauvais gérant de ta vie. Si je ne sais pas donner à ma vie une direction, c'est ça qu'on appelle les directeurs. Directeurs. Les directeurs ne sont pas, on dit gestionnaires, non. Il y a les directeurs, il y a les gestionnaires. C'est ça. Au niveau des États, il y a les dirigeants, il y a les gestionnaires. Les deux se complètent. Mais si vous confondez un dirigeant et un gestionnaire, ça ne va pas aller. C'est ça. Vous devez être d'abord dirigeant de votre vie, directeur de votre vie, avant d'être le gérant de votre vie de façon quotidienne. J'ai marqué quelques idées que nous allons partager ensemble pour que nous voyons un des problèmes que nous avons aujourd'hui à cet égard-là. Diriger ma vie, c'est de m'asseoir et de décider la meilleure voie que je dois prendre pour arriver au but. Pour arriver à mon but. C'est ça, diriger. Quelle est la meilleure voie, le meilleur chemin que je dois prendre pour arriver au but que je vise? Ça, avez-vous fait cela individuellement, jeunes gens, personnes âgées? Avez-vous fait cela? Vous voulez gérer votre vie? Ça ne marchera pas. Comment voulez-vous gérer quelque chose qui n'a pas de direction, qui n'a pas de but? Je vous pose la question. Vous ne voyez pas le corps humain? Vous ne voyez pas la tête et les pieds? La tête décide. Écoutez-moi. La tête donne la direction. La tête décide d'aller dans tel endroit. Mais ce n'est pas la tête qui va gérer la manière d'aller dans l'endroit. Non! Ce sont les pieds. Les pieds qui vont, avec les autres organes, se décider à réaliser, à aller au but que la tête a décidé, donc, de réaliser. Vous comprenez? C'est pourquoi, si nous voulons le bonheur et le vrai succès, dans nos vies personnelles, dans nos familles, dans notre entreprise, ou dans tout, dans un pays, il faut d'abord qu'il y ait un centre de décision, qu'on appelle la direction. Quand la direction sait de façon claire, avec les pensées claires, comme on l'a dit précédemment, si les pensées sont claires, si tout est déjà dans la pensée, et on sait où on veut aller, et tout est là, alors nous pouvons confier à des gérants ce que nous pensons. Et les gérants sont habilités. Les gérants ont la capacité de nous aider à accomplir ce que nous avons décidé dans nos pensées. Chaque jour, la tête décide, mais ce n'est pas elle qui accomplit. La tête décide que tout le corps est sale et que le corps doit être lavé pour être en bonne santé. La tête a décidé, la tête a regardé le bien-être du corps. C'est que ça fait 3 jours, j'ai beaucoup travaillé, j'ai transpiré, je suis sale, je suis nauséabond. Et la tête dit que ce n'est pas bon pour une bonne hygiène. Ce n'est pas la tête qui va se laver. Non. Les pieds et les bras vont se coordonner pour laver mon corps, pour purifier mon corps. Donc, il y a les décideurs, les directeurs, et il y a les gestionnaires ou les gérants. Dans la vie d'un homme, il faut les deux éléments. Beaucoup de jeunes disent, nous ne savons pas comment gérer notre vie. Avez-vous déjà été directeur de votre vie? Avez-vous décidé? Vous voulez habiter une maison qui n'a jamais été construite. Comment ça peut aller? C'est ça. Vous voulez gérer une maison dont aucune chambre n'existe. Comment pouvez-vous faire ça? Voici le vrai problème que nous avons. Nous avons dit diriger, c'est de décider la meilleure, le meilleur moyen, la meilleure voie qu'on doit prendre pour arriver au but. Et gérer, c'est se montrer efficace pour mener les gens, les véhicules à bon port, etc., etc. Si je décide d'aller dans telle ville, ça c'est la décision, ça c'est la direction que j'ai donnée. Gérer maintenant, c'est me montrer efficace pour mener, pour arriver à bon port dans la ville où j'ai décidé d'aller. Ça, c'est important. Je donne un exemple pour que nous comprenions. On veut désenclaver une région d'un pays. La région est dite inaccessible. Mais la région a une production agricole fantastique, merveilleuse. On y trouve tous les agrumes, on trouve les fruits, bon, tout, on trouve tout là-bas. C'est une région très riche, mais elle est enclavée. Donc, les dirigeants qu'on appelle les décideurs, les directeurs du pays, décident de désenclaver la région en faisant une route. Et ce groupe de décideurs-là, ils ont dit, quelle route il faut construire. Nous disons que nous voulons une route à deux voies. Et voilà ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre là-dedans. Bon, et ils ont décidé, c'est très bien. C'est ce que je dis. Ils ont vu la meilleure voie pour aboutir donc à ce projet qui est de désenclaver donc cette région afin que le reste du pays puisse bénéficier des produits agricoles qui sont en tout cas produits dans cette région-là. Maintenant, il y a l'aspect géré. Il ne s'agit pas de décider maintenant, il faut gérer. Et l'équipe de gestion est censée se montrer efficace pour mener ce projet à bon port. C'est ça gérer. Je vous pose la question. Si l'équipe de construction de la route, les maîtres de chantier, les ingénieurs et tous ces gens-là, avec tous leurs engins, tout ce qu'il faut, les cars, les camions, tout ce qu'il faut, met de côté le plan pour construire cette maison-là, cette route-là, est-ce qu'ils vont arriver à bon port? Jamais. Et c'est ce qui arrive parfois dans nos pays africains. Je suis obligé de le dire, ce qui arrive dans nos pays africains. Et c'est dommage. Cette émission passe dans plusieurs capitales africaines. J'ai oublié de vous dire ça. Si vous mettez de côté la décision et vous voulez bâtir une route, mais vous allez la bâtir comment? Vous allez mettre le plan là. Vous ne savez pas? À tel endroit, l'épaisseur de la route doit être ça. On doit d'abord élever. Non, non, nous, on est des techniciens du génie civil. On connaît. On a déjà fait beaucoup de routes. Mais non, on ne vous demande pas de faire une route ici. La route est un moyen d'accès. Le but, c'est de désenclaver la région. Mais s'ils refusent de gérer de façon efficace la pensée des décideurs, mais la pensée ne se manifestera jamais sous forme de route. Ils vont bâtir une route, mais qui ne va pas arriver dans la région, qui va se trouver à l'opposé de la région. Parce que la région est située dans un des points 4 cardinaux. Si la région, on dit c'est la région du nord, et ils ont construit une route pour aller dans l'est, est-ce qu'ils ont abouti? Non. Est-ce qu'ils vont rendre les gens heureux? Non. Est-ce qu'ils ont eu un vrai succès? Non. Voici une route qui a été construite, ils vont s'arrêter sauter le champagne, dire nous avons fini l'autoroute XZ, ils vont taper et puis le lendemain, on va les licencier tous, on va les amener en prison. Pourquoi ? Leur victoire qu'ils ont sablée au champagne n'a servi à rien. C'est pas une victoire. C'est une victoire qui a coûté cher à la nation, mais qui n'a pas abouti au désenclavement de la région. Voici le problème que nous avons. Nous voulons rendre les gens heureux. Nous voulons nous rendre heureux. Mais nous refusons d'appliquer les principes bibliques, les principes de Dieu. Même les principes même ordinaires que Dieu a donnés dans la nature. Là. Dieu est un Dieu, le créateur de la nature. Il nous a donné des lois. Il a donné la loi de la gravitation, la loi de la pesanteur, la loi de l'aérodynamique. Si nous refusons ces lois-là, nous n'allons jamais aboutir. Si nous avons nos propres pensées en tant qu'êtres humains et nous voulons refuser les principes de Dieu, ça n'aboutira pas. C'est pourquoi le monde devient de plus en pire. Il devient pire et on ferme les yeux. Nous voulons jouer à l'Autriche. Nous savons que ça ne va pas. Parce que nous avons refusé de nous soumettre à Dieu. C'est ça le problème de l'homme. Il n'y a point de Dieu, il n'y a point de diable, disent certains. L'homme est Dieu lui-même. C'est vrai ça. Et puis il meurt comme ça. Regardez comment il est fragile. Un petit microbe invisible tue l'homme courageux. Et puis vous dites qu'il est fort. Un simple microbe, invisible. Ou une petite balle, en fer là. Pim seulement, il est mort. Et vous dites que l'homme est courageux, l'homme est fort. Il est fort en quoi? Regardez comment il meurt banalement. Banalement. Regardez. Nous devons réfléchir. Nous devons avoir le courage de nous asseoir. Nous avons tous les moyens pour nous rendre heureux. Nous avons tous les moyens pour rendre nos nations heureuses. Nous avons tous les moyens pour rendre nos familles heureuses. Nous avons tous les moyens pour nous rendre heureux nous-mêmes. Mais nous refusons. Nous avons dit non à notre vrai bonheur, à notre vrai succès. Nous avons dit non. Nous avons tous les moyens. Tout. Tous les moyens. C'est comme si je dis aujourd'hui que le monde est dans la famine. Le monde, des milliards d'hommes meurent de famine, alors que le monde a tous les moyens, les produits agricoles aujourd'hui pour nourrir le monde entier sans problème. Vous n'avez pas me dit non. Pourtant, vous le savez. Vous savez qu'aujourd'hui, le monde entier, là, le surplus agricole qui est dans le monde entier, peut nourrir les gens pendant 7 années, même sans qu'on cultive. Sans qu'on cultive. Mais pourquoi ? On ne veut pas. On ne veut pas le bonheur. On ne veut pas le succès. On ne veut pas le vrai bonheur. Nous ne voulons pas ça. Nous avons décidé que c'est nous qui avons notre bonheur, que personne d'autre ne doit avoir son bonheur. Mais si l'autre n'est pas heureux, comment je serai heureux ? Si l'autre n'est pas heureux, il va venir me voler. Si l'autre n'est pas heureux, il essaiera de me détruire pour prendre ma place. Rendons les gens heureux. Rendons les gens heureux. Simplement, nous avons la capacité intellectuelle, morale et tout, dont nous refusons de le faire. Ça, c'est important que nous comprenions. Très important. Vous entendez? Très important. Comment nous voulons aller, nous voulons progresser, si nous ne voulons pas vraiment, si nous voulons le vrai bonheur. Et ce bonheur-là dépend simplement de nous. Décidons aujourd'hui. Nous pouvons être des bons dirigeants. Des bons dirigeants sans être obligatoirement un bon gestionnaire. Si nous savons prendre les bonnes décisions pour notre vie personnelle, alors, avec la complicité des autres, nous allons pouvoir gérer. Parce que la gestion se fait de façon tout le monde. Parce que je dépends des autres. Il y a une interdépendance au niveau des hommes. Aucun ne peut se rendre heureux par lui-même. Tout seul, ce n'est pas vrai. Aucun homme, aucun pays, aucun système, aucune communauté ne peut se donner le bonheur, le succès sans l'interdépendance. Alors c'est pourquoi nous avons voulu nous arrêter et réfléchir. Et si nous regardons attentivement ce que Dieu nous dit, nous allons comprendre ces choses-là. Un jour, un grand pays, à l'époque, qui était l'Égypte, qui dominait le monde entier, qui était la plus grande puissance de l'époque, Le pharaon a eu un songe. Les gens m'ont dit, ah, c'est encore ça, c'est subjectif. Les sons ne sont pas subjectifs. Non. Il y a songe et songe. Si c'était subjectif, pourquoi tant de livres sont écrits sur les rêves? Pourquoi tant de gens ont sous leur oreiller les livres d'explication des rêves? Pourquoi ces livres-là se vendent bien? Si vous dites que c'est subjectif, pourquoi tant de livres? Comment expliquer vos rêves? Pourquoi ça marche dans le monde entier, des plus grands aux plus petits? Bah, tout le monde sait que les rêves ont un sens. Tout le monde le sait. Mais il n'est pas donné à tout le monde de les expliquer. Il y a des rêves qui proviennent effectivement du caviar que vous avez mangé la nuit. Oui, ça je reconnais. Mais il y a des rêves qui sont authentiques. Alors, ce grand pharaon a eu ce songe en deux phases. Première phase, il a vu tout le pays qu'il dirigeait, la grande nation de l'Égypte. Un pays pendant 7 années. Il a vu, c'est clair, c'est bien défini, c'est clair. Il a vu le pays est dans 7 années de prospérité. Le chiffre 7, ça veut dire la perfection. Quand on voit le chiffre 7, ça veut dire que c'est arrêté par Dieu, la chose va s'accomplir. 7, c'est la perfection. 5, c'est la grâce. 3, c'est l'unité dans la diversité. 2, c'est l'unité marcher ensemble. 1, c'est Dieu, le chiffre de Dieu. Une autre fois, on va expliquer les chiffres, l'explication des chiffres dans la vie d'un homme. Alors, quand il a vu 7 années de prospérité, d'abondance, il l'a vu sous quelle forme? Il l'a vu sous forme de bœuf gras. De bœuf gras. Ah. Deuxième phase du rêve, du songe, il a vu encore 7 vaches maigres qui sont venues, qui ont détruit en quelque sorte les vaches grâce là. Et brusquement, il s'est réveillé d'un seul coup. Pharaon a eu peur. Comme la plupart d'entre vous, quand vous faites des rêves, là, vous avez peur. C'est pourquoi vous courez à gauche, à droite. Vous courez à gauche, à droite. Pharaon a appelé tous ses magiciens. Vous savez que chaque roi a des magiciens autour de lui. Ça, c'est pas moi qui le dis. Les rois ont des magiciens. Ils ont des consultants. Ils ont toutes sortes de gens. C'est tous les rois, ils sont comme ça. Ce n'est pas leur faute, mais c'est normal, parce qu'ils ne savent pas. Alors, on ne les condamne pas, mais on dit que les rois ont ça. Il a appelé toute sa cour, les astrologues. La Bible dit qu'il a appelé tous ces gens-là. Ils ont dit, roi, nous, on ne comprend pas ce que tu dis là. On ne sait pas ce que ça veut dire. Hein. Le roi dit, mais comment? Vous êtes payé grassement, vous mangez à ma table, vous buvez mon champagne. Et vous ne pouvez pas me dire ce que ça veut dire mon rêve? Ils ont dit non. Il dit bon. Ah, vous allez avoir des problèmes. Il dit, ah, roi, ça c'est l'affaire des dieux. Nous, on n'est pas dieux. Il dit, ah bon, vous n'êtes pas dieux. Quand vous venez me flatter en disant que de donner 20 millions, 50 millions pour telle chose-là, vous me flattez. Maintenant que j'ai eu un rêve qui est réel, authentique, vous dites que vous ne pouvez pas. Vous allez avoir chaud ici. Et un qui a dit, oh, pardon, oh, pardon. Il y a un homme là qui est en prison. Un Israélite là, un juif là. Il dit, ah bon, un juif, qu'est-ce qu'il a à faire avec nous? Il dit, non, non, c'est un jeune homme là, il s'appelle Joseph. Il a la sagesse, il dit, amenez-le. Quand Joseph sort de la prison, il est devant Pharaon. Pharaon explique. Joseph dit, oh Pharaon, c'est bien, t'es magicien là, il ne peut pas t'expliquer ça là. Regarde leur ventre là, c'est gros, immense, gras, mais il ne peut pas expliquer. Ça, ce n'est pas une affaire de faire des choses bizarres. Ça, c'est une affaire de Dieu. Il faut la révélation de Dieu. Et moi, j'ai l'esprit de Dieu, dit Joseph. Il dit, ah bon? Il dit, votre rêve, Pharaon, voilà ce que Dieu a dit, c'est une décision de Dieu. Les 7 vaches grasses là, avec des épis, tout ce qui est gras, gras, gras là, ça veut dire 7 années de prospérité, qui seront suivies de 7 années de crise économique jamais que ton pays n'a jamais vue. Alors, le roi dit, mais alors, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Si Dieu a décidé comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Beaucoup de gens ne consultent pas Dieu. Ils préfèrent consulter autour d'eux. C'est ça le problème. Le Dieu qui vous a placé comme roi, Dieu qui vous a placé comme chef, Dieu qui vous a donné, vous, petit chef, directeur, chef de service, consultez-le. Il dit, ok, qu'est-ce qu'on va faire? Et Joseph a dit, simplement, pendant les 7 années-là, il faut faire des magasins. Choisir les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Et ensuite, vous allez voir, ça va réussir. Quand Pharaon a fait cela, il y a eu du succès. Et on a nommé Joseph lui-même pour diriger donc ce gouvernement-là. Alors, bien-aimés frères et sœurs, et il y a eu le bonheur et le succès en Égypte. Alors, regardez bien, réfléchissez ce que nous avons dit. Vous allez voir que votre vrai bonheur et votre vrai succès sont déjà dans vos mains et à travers la parole de Dieu. Si vous faites ça, Dieu vous bénira et sa grâce sera sur vous. Que la grâce de Dieu vous accompagne et au nom de Christ Jésus, nous vous bénissons. Amen.